Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Fitch qui vit au Canada et plus précisément au Québec. Alors que tous ceux qui n'ont jamais croisé de malgache au Québec lèvent la main. Effectivement, le Canada devient aujourd'hui une terre idyllique pour beaucoup d'étrangers et aussi pour les malgaches. Alors si vous ne connaissez pas le Canada, je vous conseille fortement d'écouter l'expérience de vie de Fitch. Cela vous donnera une idée, mais surtout d'y faire un tour, parce qu'on y découvre de merveilleux paysages et une population très chaleureuse. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Fitch. Bonne écoute.
Bonjour Fitch, comment vas-tu?
Alors c'est un match. Très bien, merci toi.
Ça va bien, merci. Je suis contente de faire ce nouvel épisode avec toi. Comme tu le sais, j'aime bien partir à la rencontre de malgaches qui ne vivent plus à Madagascar pour nous faire découvrir leur nouveau lieu de vie et surtout pour faire un peu un parallélisme avec la culture malgache. Avant d'échanger, j'aimerais bien que tu te présentes, donc tu nous dises quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
D'accord, bah écoute, moi c'est Fetra, moi c'est Fetch. J'ai plus qu'un âge, je pense que je suis plus dans les 37 environ.
D'accord.
À Québec, donc dans la ville de Québec.
Donc au Canada.
Exactement, au Canada.
Et comment ça se passe la vie au Canada? Est-ce que tu aimes cette vie?
Oui, c'est quand même une vie différente de ce qu'on a vécu à Madagascar. C'est moitié été, moitié hiver, donc c'est toute une autre façon de vivre. Tout un autre environnement, toute une autre façon de faire dans les relations avec les gens, une autre façon de voir les choses aussi, donc une nouvelle vie carrément à construire.
D'accord. Toi, t'es né, t'avais grandi à Madagascar?
Exactement, je t'ai né et grandi là-bas puisque jusqu'à vraiment la fin de ma vingtaine.
D'accord. Et au niveau de ton éducation, on parle toujours, j'imagine que tu as reçu une éducation à la malgache, on parle toujours de valeurs communes, la famille, aussi cette volonté d'appartenir à un pays, à un clan. Toi, si tu devais dire un peu quelques valeurs que t'as retenues de ton éducation à Madagascar, quelle serait-elle?
Une valeur qu'on a appris quand même. On a toujours cet aspect, comme tu disais, communautaire, qu'on appelle communément le fiavana. Hein. C'est quelque chose qui est ancré en nous, puis qui fait un peu notre identité et notre différence.
Surtout, d'accord.
Un nouveau, dans un autre milieu, dans une autre société. Cette valeur-là fait en sorte qu'on se positionne très bien par rapport aux autres, parce que je dirais que la culture occidentale est un peu plus individualiste, fait que le Fiavan, si on le maintient toujours, si on le cultive dans notre quotidien, eh bien, on arrive à surpasser un peu cet aspect de la société occidentale, malgré tout. Donc, c'est quelque chose que moi, je chéris, que j'essaie de vivre avec, avec la famille, d'apprendre, avec les enfants. C'est pas évident, forcément, parce que les valeurs s'opposent sur certaines parties, mais
bien sûr.
Je pense que je veux continuer à faire vivre.
D'accord. Et justement, concernant les valeurs, j'aimerais savoir déjà si au Canada, enfin du moins au Québec, là où tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de malgaches déjà? Est-ce qu'il y a une diaspora quand même présente malgache au Canada?
Oui, la diaspora est bien présente au Canada. Faut savoir que le Canada est très grand, majoritairement anglophone aussi. Donc, la communauté est surtout concentrée au Québec.
D'accord.
La province de Québec. Qui est donc la seule province francophone. Elle est composée à peu près de 8 millions d'habitants. C'est la communauté malgache est vraiment est encore plus concentrée dans la métropole qu'est Montréal. Ce qui n'empêche que dans les autres villes, comme là je suis à la ville de Québec, il y a quand même un bon noyau de malgaches, mais vraiment un peu pas comparé avec d'autres grandes métropoles comme Paris.
Tout à fait, tout à fait. Et quelle est l'entente entre les malgaches qui habitent, qui demeurent au Québec? Est-ce qu'il y a je sais pas, des églises où ils se réunissent, peut-être des fêtes. Est-ce qu'il y a cette vie malgache qu'on retrouve un peu ou pas du tout?
Oui, il y a une vie malgache à l'époque de nos communautaires qui existe ici, étant donné que la présence des malgaches ne date pas d'hier non plus. Il y en a qui étaient établis depuis quand même plusieurs années.
D'accord.
Et que l'immigration a accentué, surtout dans les dernières années. Donc, les regroupements se font surtout dans les milieux culturels. Tu le dis, donc il y a différentes églises ici, que ce soit les catholiques ou les protestants, les anglicans ou tout autre. Donc, c'est surtout ces milieux-là où les malgaches se retrouvent tous régulièrement, à travers aussi différentes activités culturelles ou sportives.
D'accord.
Et au-delà de ces milieux culturels, il y a aussi des regroupements associatifs. Notamment dans la ville de Québec, par exemple, on a ce qu'on appelle le GASMRAI, qui regroupe un peu tout le monde, tout Acadie, qui souhaite se réunir autour de différentes activités, notamment sportives, mais aussi culturelles, donc, pour que les jeunes, les enfants, surtout des nouvelles générations, puissent se connaître.
D'accord. D'accord.
C'est intéressant.
Et toi, est-ce que tu as ce besoin, en étant à l'étranger, de retrouver un peu cette communauté malgache? Est-ce que tu as ce besoin de te retrouver avec tes pères?
Ben, il y a toujours ce besoin, comment on dit ça, rassurant. Besoin rassurant d'être avec des gens qui se comprennent plus facilement.
D'accord.
Parce que les malgaches peuvent facilement se communiquer sans forcément faire beaucoup d'efforts de se faire comprendre. Premièrement, grâce à la langue commune et le malgache, qui fait en sorte qu'on communique plus facilement nos idées, hein, on communique plus facilement un peu les émotions aussi.
Tout à fait, tout à fait.
La deuxième aussi, c'est toutes nos repères. Nos repères sont un peu pareils, vu que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre les Malgaches qui sont là, ont quand même vécu une part de leur vie. On peut facilement communiquer à travers des repères communs là, à Madagascar, après nos éducations, nos expériences. Donc ça facilite beaucoup les choses, puis ça rassure d'un certain. D'un autre côté, ça rassure que malgré qu'on soit à 1000 lieues de Madagascar, ben, il y a des gens avec qui nous ressemblent et qui ont le même vécu un peu que nous à différents stades. Donc, c'est ce besoin-là.
D'accord.
Moi, j'aime être avec la communauté malgache.
Et justement, quand on parle de communauté malgache, il y a autre chose aussi à laquelle on pense qui parfois on se dit peut-être en Amérique du Nord manque un peu, c'est la nourriture. Déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la nourriture canadienne, ce qui mangent les Canadiens au quotidien?
Ce que mangent les Canadiens, très bonne question. En général, les Canadiens, ils mangent de tout. C'est multiculturel aussi, peut-être en matière de nourriture. Et ils aiment beaucoup aussi la nourriture, en fait,
qui se mélange dans
différents pays et qui se mélange dans leur quotidien.
D'accord.
Sinon, ils ont quand même des plats intéressants. Les tourtières ou la poutine ou tout ce qui est à base d'érable aussi.
Bien sûr.
Au Canada, donc c'est ça.
Et est-ce que tu trouves facilement des aliments pour cuisiner malgache?
À Montréal, en tout cas, dans la métropole, là où est concentré le grain malgache, je pense qu'il y a un restaurant malgache ou même plus d'un, je pense qu'il y en a peut-être deux aussi qui fait donc qui font donc des plats malgaches. Là, vous pouvez facilement comme les plats de Ravtout ou alors le Rumazar, d'autres plats là, qu'on a l'habitude de voir et de manger à Madagascar. Puis ce qui n'empêche aussi que on retrouve aussi les ingrédients de base de nos plats dans certaines épiceries spécialisées. Épicerie africaine, soit épicerie chinoise. On peut aussi accéder et préparer nous-mêmes nos aliments malgaches, nos plats malgaches.
D'accord. Et concernant la mentalité des Canadiens, on va dire des Québécois surtout, parce que c'est là où tu es basé, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la population? Tu vois, par exemple, j'ai fait des épisodes avec des étrangers qui habitent à Madagascar, qui ont tendance à dire que les Malgaches sont des gens chaleureux, qui sont toujours souriants. Toi, au Québec, comment tu vois les Québécois?
Les Québécois, ils sont très accueillants. Ils ont cette facilité de t'accueillir avec le sourire et de te présenter en tout cas leur pays, leur ville. Ils aiment beaucoup aider.
D'accord.
Donc ça, c'est très particulier vraiment de la part des Québécois. C'est certain que il y a toujours une hésitation avec les étrangers, mais ça existe partout dans le monde. Mais
tout à fait.
Dès que je dirais la glace à briser, ils sont vraiment curieux de connaître, de mieux connaître un peu tes origines, tes traditions, pour s'enrichir aussi, pour enrichir un peu leur connaissance. Donc,
d'accord.
C'est pour ça que le Québec est facile, tu peux facilement t'intégrer dans un premier temps là, pour lorsque tu arrives, parce que mm-hmm. la familiarité là. Après, bien sûr, il faut faire beaucoup de pas pour apprendre aussi leur culture, donc et alors, c'est là d'aller plus loin dans les relations.
D'accord. D'accord. Et est-ce que toi, tu te sens à ta place au Québec? Est-ce que tu sens que tu appartiens au groupe, on va dire, québécois, enfin vraiment au pays?
Je pense que il faut prendre du recul mm-hmm. pour répondre un peu à ta question, parce que la réponse peut varier d'un moment à un autre, dépendamment de combien de temps tu es déjà arrivé.
Tout à fait.
Mmh. Et bien, tous les enjeux ou les succès que tu as au travers de ton installation et ton intégration. Donc, mais je dirais que tout dépend vraiment des repères et des objectifs que tu as. Si tu te sens intégré, si tu te sens à ta place, mais lorsque tu fais cet effort-là de recul et d'introspection, de pratiquer vraiment tes objectifs, tes ambitions, de voir autour de toi comment les gens te reçoivent, comment tu vois les opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Je veux dire que oui, on peut se faire sa place au Québec.
D'accord, parfait. Et concernant le système plus professionnel, on va dire, toi, au travail, est-ce qu'il y a des choses sur la mentalité québécoise ou sur la culture, des choses auxquelles tu as dû t'adapter une fois que tu as été installé?
Tu veux dire en matière professionnelle?
Tout à fait. Par exemple, dans la communication, dans la barrière entre vie privée, vie perso, entre vie privée, vie pro. Tu vois, des codes en fait de la société que tu as dû apprendre avec le temps pour vraiment comprendre en fait la culture. Pour donner des exemples, par exemple, il y a des étrangers à Madagascar qui me disent les Malgaches ne disent jamais non au travail. Ils ne savent pas dire non, mais par contre, il y a des signes dans le non-verbal qui montrent qu'ils ne savent pas faire. Un rictus, une intonation de voix qui diminue un peu, et là tu comprends que la personne en fait ne sait pas faire, mais est en train de te dire que oui, il va le faire.
Mais tu as déjà bien répondu, je pense. Il y a des codes partout dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit, même si tu changes juste de boîte, déjà il y a des nouveaux codes que tu dois apprendre. Donc, ils sont différents des entreprises peuvent avoir différentes valeurs. Même qui plus est, un pays, un nouveau pays. Donc, et il faut du temps pour les apprendre. Ça peut être un blocage au départ, mais il faut être ouvert, un esprit d'ouverture, être très demandé.
D'accord.
De curiosité. C'est-à-dire mm-hmm. les codes ou ces codes-là ne vont pas forcément venir d'elles-mêmes ou se montrer d'elles-mêmes. À toi.
Mmh. Donc,
c'est bien d'avoir cette curiosité-là, d'aller à la pêche, aller toujours demander, aller vers les autres. On a cette habitude-là d'attendre. habitude, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou c'est culturel. On attend, on a cette habitude-là d'attendre la formation. Mais c'est ce qu'on a appris ici, en tout cas, c'est qu'il faut toujours aller chercher la formation officielle, là où il est, demander aux gens, toujours poser des questions après les recherches. Aux autres, participer à toutes les activités qui se passent au milieu de travail, parce que c'est dans la sociale aussi qu'on apprend un peu plus.
Tout à fait.
Donc, vraiment se mêler aux autres et toujours faire ce pas-là. C'est certain que si je prends deux ou trois exemples, la première, c'est que la différence que j'ai constatée, c'est qu'ici, on utilise beaucoup, par exemple, le tutoiement. Entre le collègue, nous-mêmes, avec les supérieurs, avec les gestionnaires, avec tout le monde. Donc, cette signe de familiarité n'empêche pas qu'il faut se respecter, mais que, voilà, on se tutoie simplement plus facilement. Les gens aussi sont ouverts à offrir leur aide. Les gens aussi sont très ouverts à offrir leur aide pour quoi que ce soit. Donc, on s'attend aussi à toi pareil, mais cela ne veut pas dire que tu dois profiter des autres de leur temps. Il faut faire la nuance. Mais tout ça, c'est partie de la culture de collaboration, je dirais. Maintenant, tu as parlé de langues micro. Je ne sais pas si j'ai quelques exemples avec ça, mais c'est certain que la plupart des Québécois avec qui j'ai pu entrer en contact parlent facilement, je dirais, plus facilement que de leur vie personnelle ou familiale, mais propre à chacun.
Bien sûr.
À toi de savoir jusqu'où sont tes limites, sur ton partage, sur ce que tu veux partager aux autres, mais c'est un constat quand même intéressant sur la société québécoise.
D'accord. Fitch, pour terminer, je vais avoir trois petites questions pour toi. La première, c'est est-ce que ton cadre de vie, ta qualité de vie aujourd'hui au Canada, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir le même à Madagascar ?
Cadre de vie ? Dans un premier temps, non, forcément non, étant donné que là, l'environnement est totalement différent, ce qui fait que comme cadre de vie, tu vas vivre dans deux mondes différents totalement.
D'accord.
Dans un deuxième temps, rien n'empêche qu'à Madagascar, si selon tes objectifs ou tes... tu es arrivé dans ta vie, tu peux avoir un cadre de vie qui correspond à ce que tu souhaites, à ce que tu veux pour ta famille et tes enfants. Mais au Québec, je dirais que cet cadre-là, en tout cas, il y a un environnement qui est quand même assez facilitant pour développer des opportunités plus faciles peut-être à saisir simplement ou même juste l'accès ça peut être l'accès à des emplois ou à la santé ou juste à des activités physiques ou mentales qui peuvent être plus tard, puis ça peut faire une grande différence.
D'accord. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu as une volonté de retourner vivre à Madagascar un jour, pas forcément demain, hein, mais dans un futur plus ou moins proche?
Oui, Madagascar reste toujours dans le plan, mais comme tu le dis si bien, c'est vraiment une variable inconnue. Comme la famille est toujours là-bas, on peut toujours se rapprocher un peu d'eux. Et puis, il y a toujours de long terme, sur le long terme, il y a toujours l'idée de la retraite.
Bien sûr.
essentiellement planifier. Donc, est-ce que un retour à Madagascar peut être envisageable? Bon, des bonnes questions. Puis, je dirais que à cette heure, pas forcément. C'est difficile d'avancer ces réponses-là. On caresse l'idée.
D'accord, d'accord. Et ma dernière question, c'est si tu avais quelque chose à partager, à dire, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que tu aimerais dire aux auditeurs.
Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué? Moi, je dirais simplement, tout endroit dans le monde est quand même est intéressant à comme expérience, que soit que l'on soit de passage ou que l'on souhaite s'établir plus longtemps, parce que déjà, Eda, il faut en profiter, vivre ces expériences-là pour se développer, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Et en fait, profiter, voilà, Madagascar aussi de différentes manières. Donc, c'est un peu ce que je voulais simplement dire, que la décision d'immigrer de tout un chacun est vraiment normale. Et encourage tout le monde à exploiter et voir les opportunités qui peuvent s'offrir à l'homme.
D'accord, d'accord, super. Ben écoute, merci beaucoup Fetch pour ton témoignage et puis on te souhaite une bonne continuation au Canada.
Merci à toi et puis bonne suite dans tes balades.
Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.